RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, il y a 100 ans, le 23 février 1917, les ouvriers de la plus grande usine de Petrograd, alors capitale de l'Empire russe, se mettent en grève. Ils exigent du pain et du travail. Les manifestations se multiplient et prennent une tournure politique. L'empereur ordonne alors à la troupe d'intervenir, provoquant un bain de sang. Les soldats se mutinent. Le 2 mars, l'empereur Nicolas II abdique. C'est la révolution de février. Un gouvernement provisoire est mis en place. Il sera renversé le 25 octobre par les bolcheviks, avec à leur tête Lénine, dans ce qu'on appellera la révolution d'octobre. Alors 100 ans après, que reste-t-il de la révolution russe? Le retour de l'église et la nostalgie de l'empire, Lénine oublié pour le centenaire de la révolution de 1917. C'est un grand reportage, signé Muriel Pomponne.
C'était le 4 juillet 2013 dans une cathédrale du Kremlin. Le patriarche Cyrille célébrait une messe pour les 400 ans de la dynastie des Romanov, dont le dernier représentant, Nicolas II, a abdiqué il y a 100 ans. Nicolas II et sa famille devaient être exécutés un an plus tard, en juillet 1918. 100 ans après la révolution de 1917, le régime tsariste est réhabilité par l'Église et par le pouvoir. Le patriarche Cyrille glorifie le régime impérial à travers le récit de l'élection du premier des Romanov, le tsar Michel, couronné en 1613.
La réunion de ces états généraux en 1613 était un événement tout à fait particulier dans la vie de la Russie et de toute l'Europe. Auparavant, aucun rassemblement populaire, ni de la noblesse, ni du clergé, n'avait choisi le chef de l'État. Et quand on dit aux Occidentaux que nous avons nos propres sources de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, et on rappelle les états généraux qui ont eu lieu, pour beaucoup d'entre eux, c'est une révélation.
La même année, une grande exposition est organisée sur la place du Manège, à deux pas du Kremlin, consacrée à l'histoire de la dynastie Romanov. C'est un tel succès que l'exposition devient permanente au parc des expositions VDNK. L'historien Alexandre Miasnikov est l'un des concepteurs de l'exposition.
La grande problème en russe histoire, c'est que...
Le grand problème avec l'histoire russe, notamment au XXe siècle, c'est qu'elle a été réécrite plusieurs fois. C'était donc difficile de comprendre où était la vérité. Notre principe à nous, ça a été de présenter les faits et pas les conclusions. Dans l'historiographie soviétique, on donnait des conclusions en disant « ça c'est mauvais parce que c'est mauvais ». Trouver les faits, ce n'est pas difficile, mais nous, on voulait aussi que la présentation soit interactive, pour qu'elle soit intéressante. Quand c'est intéressant, les gens apprennent quelque chose. Quand c'est sous la forme d'un manuel d'école, ça n'intéresse personne. D'où par exemple l'écran que vous êtes en train de voir. C'est Moscou en flammes. Quand les sapeurs-pompiers se sont rendus ici, ils ont vu ça et ils ont dit « Non mais c'est pas possible, vous allez mettre le pavillon en feu ». Et c'était difficile de leur expliquer qu'il s'agissait de nouvelles technologies. En fait, l'information est mise en scène sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est souvent un stand ou un grand panneau qui présente les thèmes principaux. Ce panneau est reproduit sur l'écran, venez voir. Et là, vous pouvez toucher l'écran sur la partie qui vous intéresse et vous aurez plus d'informations, quoi, comment et pourquoi. Et tout au long de l'expo, en haut, vous voyez une frise qui représente l'histoire de l'Église, ce qui était inimaginable sous la période soviétique, parce que l'histoire de la famille Romanov est indissociable de l'histoire de l'Église orthodoxe russe.
Cette exposition interactive, ludique, avec une iconographie très riche, répond à la curiosité des Russes, avides de mieux connaître leur histoire pré-soviétique. Elle a également eu les honneurs du président Poutine. La glorification de la dynastie des Romanov sert parfaitement le message qu'il veut faire passer, comme l'explique l'historien Andrei Zubov.
Le pouvoir aujourd'hui a recours à l'histoire pour créer l'idée de grandeur nationale russe. Beaucoup d'événements peu glorieux de l'histoire russe, comme il y en a dans l'histoire de tous les pays, sont tus, cachés ou justifiés. Pourquoi ? Pour que le peuple russe se nourrisse de cette fiction au lieu de s'occuper de son quotidien peu glorieux.
Quels sont les moments historiques qui sont mis en avant par le pouvoir ?
L'argument que le pouvoir aime répéter, c'est que la Russie a toujours été un État autoritaire.
que c'est dans la nature du peuple russe. On utilise aujourd'hui très largement le concept d'ornière historique, sur laquelle avance la Russie et d'où elle ne peut pas sortir. D'après ce concept, la Russie est vouée à rester un État totalitaire. Et bien entendu, cela est fait pour justifier le régime actuel. Les choses comme la liberté ou les valeurs libérales sont présentées comme étant mensongères, occidentales et absolument étrangères à la culture russe. L'homme russe est voué à être esclave de l'État. L'État prime et l'homme est secondaire.
Il y a actuellement une exposition sur l'histoire de la Russie et notamment l'histoire des Romanov. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette exposition et si, pour vous, vous parliez de l'importance de l'autoritarisme, c'est un peu mettre en avant un régime autoritaire, parce que l'Empire est aussi un régime autoritaire.
Le contexte, c'est l'oubli de l'homme et de son destin, et la glorification du destin du pays représenté par son dirigeant, que ce soit les Ryuki, les Romanov, Staline ou quelqu'un d'autre. Pour faire bref, la ligne de démarcation passe par l'attitude à l'égard de l'homme. L'homme est-il un moyen de construire l'État ou la valeur suprême pour laquelle l'État existe? Dans la Russie actuelle, l'approche où l'homme est au centre est qualifiée de libérale et elle est dénigrée. Par contre, l'approche où l'État est au centre est une approche positive, chérie par le pouvoir. À ce sujet, on peut remarquer un changement intéressant. Dans l'idéologie communiste, contrairement à l'idéologie fasciste en Italie, on a toujours formellement souligné l'importance de l'homme. Tout est pour lui, pour son bien-être, même si c'était un mensonge absolu. Alors qu'en Italie fasciste ou en Allemagne nazie, il n'y avait pas ce mensonge. On disait clairement que l'homme ne valait rien et que l'État était tout. Et dans ce sens, aujourd'hui, nous ressemblons davantage à ces exemples fascistes et nazis qu'au régime communiste, car il n'y a plus de mensonge sur la primauté de l'homme. On ne cache plus que c'est l'État qui prime.
En août 2000, le dernier empereur Nicolas II est canonisé dans la cathédrale du Christ Sauveur qui vient d'être reconstruite. Staline l'avait fait dynamiter en 1931. La canonisation de Nicolas II, c'est la revanche de l'Église orthodoxe sur les bolcheviks. Mais ce n'est pas la réhabilitation du régime impérial. Nicolas II n'a pas été canonisé en tant que tsar, car son rôle est très controversé. Certains voient en lui un perdant, celui qui a perdu la guerre et fait reculer l'Empire. Il est canonisé en tant que martyr de la Révolution.
Célébré en tant que martyr, au sein du corps glorieux des martyrs et des pénitents, la famille impériale. L'empereur Nicolas II, l'impératrice Alexandra, le prince Alexis, la princesse Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Les souffrances que la famille royale a endurées dans l'emprisonnement, avec la modestie, la patience, dans leurs derniers moments en tant que martyrs à Ekaterinbourg dans la nuit du 4 juillet 1918. Dans cette nuit est apparue la lumière de la foi dans le Christ qui combat le mal et qui a brillé dans la vie et la mort de millions de chrétiens orthodoxes ayant souffert les persécutions pour le Christ au XXe siècle. Et aujourd'hui, sur le sang des martyrs, ressuscite l'Église orthodoxe russe.
Après cette canonisation, une cathédrale a été construite sur le lieu de la villa Ipatiev à Ekaterinbourg, où la famille impériale a été tuée. L'Église joue un rôle important dans le projet politique de Poutine. Écoutez le discours du chef de l'État tenu à Moscou le 4 novembre dernier lors de l'inauguration du monument à Saint-Vladimir, le prince de Kiev, qui s'est fait baptiser en 988 et a imposé le christianisme au territoire qui deviendra la Russie.
Ce nouveau monument rend hommage à notre illustre ancêtre, le saint particulièrement vénéré, homme d'État et guerrier, le fondateur spirituel de l'État russe. Le prince Vladimir est entré pour toujours dans l'histoire en tant que rassembleur et protecteur des terres russes. En tant qu'homme politique perspicace, ayant créé les fondements d'un État fort, uni et centralisé, qui a rassemblé dans une grande famille différents peuples, différentes langues, cultures et religions. Cette époque-là a connu beaucoup d'exploits, dont le plus important a été le baptême de la Russie. Ce choix est devenu la source spirituelle commune pour les peuples de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Il a fondé les bases de la morale, des valeurs qui définissent jusqu'à présent notre vie.
Pour autant, d'après Alexandre Verkovski, directeur du Centre d'études et d'analyse SOVA, l'orthodoxie n'est pas la nouvelle idéologie qui a remplacé le communisme. Pas question pour le pouvoir de se laisser enfermer dans une idéologie. Pas question non plus pour l'Église d'être la caution de la légitimité du pouvoir de Vladimir Poutine. Elle s'est ainsi de façon ostentatoire démarquée lors de l'annexion de la Crimée. En fait, l'Église a ses propres objectifs.
Elle peut être utile au pouvoir car l'Église symbolise la tradition. Et c'est l'un des concepts sur lesquels s'appuie la propagande officielle. Nous sommes une culture traditionnelle et face au mauvais Occident où la tradition est détruite, nous sommes obligés de nous défendre. Et l'Église, elle participe à tout cela. C'est très important sur le plan pratique, mais encore plus sur le plan symbolique.
Pour l'Église russe, le tsar avait un pouvoir de droit divin, donc il y avait une légitimité indiscutable du pouvoir des tsars. Est-ce que l'Église a le même type de rapport avec Poutine ? Est-ce qu'elle pourrait estimer qu'il y a une légitimité indiscutable du pouvoir de Poutine, comme c'était le cas pour le pouvoir des tsars ?
Non. Les autorités de l'Église, même s'il s'agit de gens qui vivent dans la Russie actuelle, se considèrent comme étant partie d'un projet à plus long terme que Poutine, Medvedev, les communistes, etc. Bien sûr, elle dialogue avec le pouvoir actuel, car c'est le moyen le plus efficace pour atteindre ses objectifs. Mais néanmoins, elle essaie de préserver cette distance, consciente que le pouvoir change. Le pouvoir des tsars était considéré par l'Église comme divin. D'ailleurs, en 2000, quand l'Église a approuvé son nouveau concept social, c'est une sorte de programme politique pour l'Église, il était écrit que la monarchie c'est mieux que la République, mais la théocratie c'est encore mieux. Mais l'Église russe est très réaliste dans ses objectifs et elle ne cherche pas à atteindre cet idéal.
L'Église russe est d'accord avec l'État sur la nécessité d'éviter les changements dans la société. C'est le sens du récent discours du patriarche Cyrille au Kremlin.
L'Église orthodoxe a conservé et conserve aujourd'hui encore un rôle de consolidation dans les pays de l'ex-URSS. Elle cherche, selon les propos des textes saints, à établir la paix avec le monde. Avec les moyens qui lui sont propres, elle cherche à réunir la société, à préserver les liens spirituels, culturels et humains dans l'organisation de l'Église et dans la vie civile. L'expérience des bouleversements du XXe siècle a montré l'importance de la compréhension par les forces politiques et civiles et par leurs leaders de leurs responsabilités dans leurs actions, quels que soient leurs motifs et fondements. Tous les changements doivent aspirer à la consolidation et pas à la division sur des motifs politiques, civils ou autres.
En conséquence, le point de vue officiel de l'Église sur la révolution de 1917 est clair, comme l'explique le porte-parole adjoint du patriarcat, Vakhtang Kipchidze.
Bien sûr, nous considérons que la révolution, c'est une tragédie à l'échelle nationale. L'État, la société et même la diaspora vont commémorer cet événement comme leur tragédie commune, une grande catastrophe. La preuve, c'est qu'il y a eu des milliers de morts et une guerre fratricide et beaucoup d'autres souffrances comme dans toutes les révolutions. D'un autre côté, on ne dit pas qu'il n'y avait pas de cause à cet événement dans la société russe de l'époque. L'Église ne cherche pas à idéaliser l'Empire russe. À la base de toute révolution, il y a une crise systématique, y compris une crise spirituelle et morale. Il est impossible que les gens qui vivent dans l'amour, dans l'entente, se réveillent un jour et commencent à s'entretuer.
Mais pour certains historiens, comme Alexandre Miasnikov, les causes de la révolution sont étrangères à la Russie.
À l'école, on nous a appris, au moins à moi, que c'était des bolcheviks et des mencheviks qui ont fait cette révolution. Mais nous, ici, on raconte que la révolution de février n'a pas été faite ni par les bolcheviks, ni par les socio-révolutionnaires, mais que cette révolution a été montée par la perfide Albion et par notre Douma d'État, et que les révolutionnaires n'y avaient rien à voir. Mais la vraie raison, c'est la Première Guerre mondiale. Vous avez un peu plus loin une citation de Lénine qui date de janvier 1917, un mois avant la révolution. Il vit à Zurich, comme tous les révolutionnaires, il n'est pas en Russie. Et on lui demande, « Monsieur Ulianov, quand y aura-t-il la révolution en Russie ?» Lui, il a 50 ans et il répond, « Nous, les vieux, on ne verra pas la révolution en Russie. Elle n'aura pas lieu avant 10 ou 15 ans. »
Cent ans après la révolution, on est donc bien loin d'honorer Lénine et les bolcheviks, comme l'explique Andrei Zubov.
Ça fait 30 ans qu'on n'est plus officiellement dans l'idéologie communiste dans notre pays. Et pourtant, l'idéologue principal du communisme, c'est-à-dire Lénine, reste présent partout. Il y a toujours son mausolée, ses statues, le nom des rues. Il y a la région de Léningrad, même si, Dieu merci, il n'y a plus la ville de Léningrad. Et en même temps, Lénine n'est pas cité parmi les leaders dont il faut suivre l'exemple. Même si le pouvoir actuel est hérité direct du régime communiste, dont le fondateur est bien entendu Lénine, il a une peur bleue de la révolution. Lénine a fait la révolution, il a détruit l'Empire russe, et donc l'État actuel a très peur qu'il y ait quelqu'un qui commette une révolution et détruise leur empire. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont tous issus de l'université communiste et qu'ils croient à la possibilité de la révolution. Et donc Lénine, pour eux, d'une part, c'est le fondateur de leur vie et de leur pouvoir, car il s'agit de gens du KGB, dont toutes les racines sont dans le passé soviétique communiste. Mais d'autre part, c'est un révolutionnaire dangereux qu'il ne faut surtout pas mettre en avant. Alors que Staline est un conservateur qui a transformé la révolution en empire, donc c'est un personnage positif. Les tsars russes sont aussi des personnages positifs, y compris le malheureux Nicolas II, qui jusqu'à la fin a essayé de préserver l'Empire, mais les révolutionnaires l'en ont empêché.
Vladimir Poutine a ouvertement critiqué Lénine lors d'une récente réunion politique, l'accusant d'avoir bradé l'Empire en capitulant devant l'Allemagne en 1918 et surtout en lui reprochant d'avoir placé une bombe à retardement sous l'Union soviétique.
Nous savons le rôle que les bolcheviks ont joué dans l'effondrement du front russe lors de la Première Guerre mondiale. Le fait que nous ayons perdu face à une nation qui elle-même était en train de perdre la guerre, puisque l'Allemagne a capitulé peu après, c'est une situation unique dans l'histoire. Pourquoi cela? Pour prendre le pouvoir, que faut-il en penser quand on sait les pertes colossales que le pays a subies? Mais voici la principale raison pour laquelle je dis qu'il faut avoir un nouveau regard sur les idées formulées par Lénine. Lénine a dit que l'Union soviétique devait être formée sur la base d'une pleine égalité, avec la possibilité pour les États de faire sécession de l'Union. J'ai pu oublier les termes exacts, mais c'était l'idée. C'est ça la bombe qu'il a plantée sous la structure de notre État. L'autonomie culturelle, c'est une chose. Une autonomie avec d'importants pouvoirs étatiques, comme le droit de faire sécession, c'est autre chose. C'est ça, associer une économie et une politique sociale inefficace qui a mené à l'effondrement de l'État. C'était la bombe à retardement.
Le centenaire de la Révolution ne devrait donc pas être un grand événement. La Révolution de février est oubliée, celle d'octobre sera célébrée discrètement, d'après Andrei Kolesnikov, du centre de recherche Carnegie.
Ce qui est important pour Poutine, et c'est la position officielle, c'est la réconciliation entre les rouges et les blancs sur des valeurs communes. Et c'est possible, car il y a une certaine distance avec cette histoire. Et puis, les gardes de mémoire ne portent pas sur la révolution de 1917, mais sur l'époque stalinienne, la répression et les années 90. L'année 1917 est une époque lointaine et abstraite. Ils vont commémorer la révolution, mais ne savent toujours pas comment. Car, en l'absence de position idéologique nette, on ne sait pas quoi vraiment fêter. Je pense que le pouvoir officiel va se limiter aux propos généraux sur la nécessité de la réconciliation. Mais, tout au long de l'année, les chaînes de télé officielles vont projeter toutes sortes de documentaires où l'on verra sans doute les bolcheviks comme des forces négatives et destructrices.
Il y a 100 ans, l'abdication de Nicolas II sonnait le début de la révolution russe. C'était la fin de l'Empire et les prémices de 70 ans de communisme. 100 ans après, Vladimir Poutine aimerait que les Russes oublient Lénine et l'esprit de la révolution. Le retour de l'Église et la nostalgie de l'Empire, un grand reportage de Muriel Pomponne réalisé par Lorenzo Danet.